Charles Zimkovics, bonjour.
Bonjour cher monsieur, bonjour.
Voilà donc, votre œuvre est importante, imposante ici, celle qui sera présentée, enfin une partie peut-être. Comment vous avez choisi ce qui va être intégré ici à l'Hospice Comtesse ?
Belle question, difficile, mais belle question, c'est-à-dire qu'il faut d'abord bien voir les lieux, s'imprégner des lieux, je suis venu plusieurs fois, et ça c'est une première chose. Ensuite, il faut faire des projets de construction, c'est-à-dire que les murs qui ont été construits selon les plans d'un ami de très longue date, qui est à la fois architecte et scénographe, avec qui j'ai déjà travaillé pour diverses expositions, en Belgique, en Italie, etc. Et nous sommes venus ensemble à plusieurs reprises, et il a conçu ces espaces en fonction des différents thèmes de l'exposition. Et il y a aussi la salle du fond qui est la chapelle, où il y a un autre type de présentation, un grand module qui a été dessiné par M. Franck Allan, qui est architecte à Mons. C'est comme ça qu'est advenue la naissance de cette exposition et le choix des tableaux et leur format.
Donc votre œuvre, on peut dire qu'on ressent une unité dans votre style. Peut-être qu'on pourrait le définir.
Mais ça, c'est à la fois c'est difficile à définir, mais comment vais-je dire, j'ai toujours été et de plus en plus très soucieux du rapport que les gens entretiennent avec l'art. Je suis enseignant dans des écoles d'art en Belgique et encore actuellement. Je suis très soucieux de voir de comprendre comment les gens abordent un tableau. Voilà. Et il y a des mots qu'on utilise couramment. Je ne sais pas comment ces mots arrivent dans la tête des regardeurs, comme le mot style. Quel style avez-vous ? Le style est un terme qui peut convenir si on veut définir un bâtiment, c'est de style gothique ou ça. Mais en peinture, je ne crois pas que le mot style ait... Parce qu'en fait, quand on parle d'art, il y a moyen d'en parler. Si on ne dit pas trop de bêtises, mais il ne faut pas non plus enfermer l'art dans des mots tout faits, quoi. Donc, petite anecdote ainsi de mon métier d'enseignant, des jeunes élèves en première année, je parle de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, et quand on donne un conseil, voilà, on dit « Ah, mais si je fais ce que vous dites, je vais perdre mon style. » Alors je dis, mais si vous avez peur de perdre votre style, c'est que vous n'en avez pas. Donc,
tu vas peut-être pas répondre. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Ressens, oui. Donc plutôt qu'un style, on pourrait parler de caractère.
Ce terme me plaît davantage, oui, mais comment définir ce caractère? Mais ce qui me plairait beaucoup, quoi que vous disiez, définissez-le, vous.
Alors, on pourrait dire que déjà, c'est un caractère frappant, c'est-à-dire qui saute aux yeux d'une certaine manière, qui impressionne. Alors, on n'est pas dans l'impressionnisme tel qu'on peut le définir, mais on est quand même dans l'expression.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais quand vous dites saute aux yeux, et forcément, je pense à une phrase issue d'un des textes que Léo Ferré, que j'ai très bien connu, et à qui je pense tous les jours. Dans un texte, il a écrit « Charles Zimkovics vous prend par les yeux et ne vous lâche plus ». C'est ce que vous avez dit à votre façon.
Alors c'est vrai que j'essaye moi aussi de faire mon petit tableau, mais à la radio, donc de oui. préciser un petit peu qui vous êtes et ce que vous produisez, que vous réalisez,
oui.
Et aussi l'approche de votre œuvre par rapport à un public qui là va venir nombreux. Donc, qu'est-ce qui est dans cet ensemble qui est présenté ici, j'allais dire le plus frappant, ce sont peut-être les expressions des visages, non ?
Il y a effectivement dans mon travail, en grande partie, je vais dire en majorité, des portraits, des figures humaines. Et en tout cas, dans cette exposition-ci, c'est un sujet, c'est un thème dominant, et avec aussi des compositions avec plusieurs personnages que vous allez découvrir au fil du temps. Mais il est vrai que depuis, moi j'ai 76 ans, 96 ans, je peins depuis que je suis tout gamin, 12, 13 ans, mais j'ai immédiatement, pourquoi on ne sait pas dire, été saisi par les visages. C'est que j'ai pas choisi, c'est venu à moi.
Alors comment on dévisage vos visages ? Est-ce que derrière, bien sûr on ressent des émotions, je le disais un peu tout à l'heure, mais oui. est-ce qu'on ressent aussi une intention de votre part ?
Mon intention fondamentale, c'est de faire de la peinture de la bonne peinture. Ça, c'est mon intention. Ça, c'est mon intention. Et comme je vous le disais, il n'est pas question de diriger la vision du spectateur. Hein. Ça lui appartient en propre. Mais pour entrer dans l'ordre du jour, dans ce que nous disons, le visage humain est un sujet qui a toujours, 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 depuis que la peinture existe, a toujours créé un problème. Parce que les gens, le public, ont peur des visages. Pas exclusivement des visages que je peins. Mais c'est une réflexion que je me suis faite comme ça. Il y a déjà pas mal de temps, c'est que les gens ont peur de la mort. Nous avons tous peur de la mort. Et le visage en peinture fait peur aux gens. Pas spécialement parce que ce visage aurait une tête grimaçante ou un caractère hideux. Et ça se reporte aussi sur la mode de la photographie, dans le sens où vous photographiez quelqu'un, ou en famille, ou n'importe où, et vous êtes obligé de sourire. Vous dites souriez, mais au début du siècle, la photographie, les portraits, même que les gens commandaient, les gens ne souriaient pas. Ils étaient comme ça. Naturellement, et c'est très beau, c'est-à-dire que l'expression de chaque personne, sans sourire, sans faire une expression, elle ne bouge pas, elle est simple, elle est réelle.
Alors justement, si on fait le parallèle entre la photographie et la peinture, qui l'a un peu précédée quand même, on ressent justement dans les poses de la peinture académique, on va dire, tout ce... Peut-être cette similitude avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la pose pour peindre qu'on a gardée un peu en photo et après on a transgressé un petit peu cette approche pour en faire, selon les intentions, les besoins aussi des personnes qui voulaient se faire photographier, non ?
Mais ça, c'est un sujet qui me dépasse parce que j'apprécie la photographie, évidemment. C'est une expression indispensable. Mais je n'ai jamais analysé cet aspect-là, quoi. Ça me dépasse un petit peu. Mais vous savez, les gens ne savent pas ce que c'est que la peinture. Ça, c'est manifeste, c'est triste à dire. Mais les gens, la plupart des gens, ils n'ont aucune notion de la peinture. Ils croient que c'est une image. Et je ne vous embête pas dans mon discours. C'est-à-dire que, comment vais-je dire, hier, par exemple, il y a eu une visite de ceux qui... les médiateurs, ce sont des gens qui travaillent pour le musée et qui sont là constamment et qui renseignent les visiteurs, les médiateurs. Et il y avait une douzaine de personnes, c'était très animé. Et la première question, une des premières questions qu'on me pose, est-ce que vous peignez aussi des paysages? Alors je dis, oui, je peins aussi des paysages, mais si, dans cette exposition-ci, il y avait en grande partie des paysages, jamais vous ne me demanderiez est-ce que vous peignez des visages aussi. C'est vrai, savez-vous, c'est vrai. Mais il y a des années, dans un journal d'information, le Courrier international, j'ai encore cet exemplaire dans mon grenier, c'était fantastique, un reportage sur plusieurs personnes qui ont interrogé des gens dans beaucoup de pays en leur demandant « Décrivez-nous votre tableau idéal. » Donc ils ont pris des notes. Pendant je ne sais combien de mois, ils ont recueilli... Avec Internet, maintenant, c'est retrouvé. Cet article-là, il est retrouvable. Et ils ont pris en compte toutes ces notes et par ordinateur, ils ont composé... Voilà. Vous savez ce que donne ce résultat? D'abord, je m'en souviens bien, d'abord, c'est un format horizontal. Ce qui déjà, en principe, dans la résonance que ça a sur notre cerveau, un format horizontal inspire plutôt le calme, plutôt que le format vertical qui a un autre sens de formel. Et voilà. Alors, beaucoup de bleu, une dominante de bleu dans ce tableau idéal, une dominante de bleu, ça veut dire deux tiers de ciel, un peu de mer aussi, un peu de mer. Quelques personnages, mais très petits, minuscules, dont un est allongé sur un drap ou sur un plan transat, et un peu de verdure. Ça, c'est le tableau idéal dans toute cette étude qu'ils ont faite.
Donc, quand on dit idéal, ce serait plutôt le tableau moyen. Comment maintenant on résume, on fait des moyennes de statistiques, on dit l'homme, il est comme ça.
Oui, exact.
C'est grave.
C'est très grave, c'est épouvantable. Oui, oui. Et je m'aperçois que c'est vrai. Quoi. Voilà. Cela dit, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Et ce que je dis souvent, quand on m'interroge, l'important, c'est de visiter l'exposition, tranquillement, bien sûr. Une exposition avec autant de tableaux, ça prend du temps. Mais de toute façon, quand on visite une exposition, que ce soit dans une exposition temporaire ou dans un musée, il y a toujours un moment de saturation. Hein. Vous ne savez pas rester une journée entière au Louvre. Voilà. Alors, ce que trop peu de gens font, on visite une exposition, on prend contact, on visite, et puis on s'en va. Et il faut y revenir. Et peu de gens visitent une exposition en 3-4 fois. Bon, si ça dure 3 mois comme c'est le cas, c'est important. Et quand on revient, on se sent plus familier. Et ce qui arrive souvent, on dit « Ah mais, vous avez ajouté des tableaux, monsieur ?»« Mais non, mais ce tableau n'était pas là. » S'il y était, mais forcément, on ne sait pas tout, on ne sait pas tout, voilà. Voilà. Monsieur Girvaud, vous connaissez le directeur du musée ?
Oui, bien sûr, monsieur Girvaud.
C'est
Radio Campus.
Monsieur de Radio Campus.
Bonjour monsieur Girvaud, ça va ?
Enchanté.
J'anticipe un peu, désolé.
Je vous en prie.
Ça va bien ? Ça va ?
Je ne regrette pas de...
Comment dites-vous ?
Je ne regrette pas l'atelier, waouh !
Moi non plus, non plus. Je dois le dire, comment on ne peut... C'est à cause ou grâce à M. Girvaud que cette œuvre complète est présente ici. Il y a tenu et j'en suis ravi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une fresque ?
Oui et non. C'est-à-dire le mot fresque, et quand on voit un très grand tableau, quel que soit son support, aujourd'hui on dit fresque. C'est une fresque, ce n'est pas pour faire le malin que je vous dis ça, mais la fresque... À la Renaissance, c'est une fresque, ça veut dire frais. Frais, donc ça veut dire que c'est une peinture qui est faite sur un mur de ciment, un mur humide, qu'on humidifie. Et pour peindre une fresque, il faut être un champion, c'est-à-dire de métier, parce qu'il faut aller vite. Et quand c'est sec, on ne peut plus rien faire. Et c'est ce que alors quand on voit un tableau à très grande surface, pour facilité, on dit que c'est une fresque. Mais quel est le... Oui, mais monsieur Girvaud, comment peut-on... Parce qu'on parlait de mot fresque, mais la fresque, c'est sur le frais, c'est sur...
C'est pas une fresque.
Voilà, comment dire alors ? S'il y a un terme qui peut...
C'est un grand, très grand format.
Horizontal.
Un gros format, c'est
une technique.
Oui.
Avec une préparation sur un mur. Mm-hmm. C'est fixe, c'est pérenne. Alors que là, on est sur un très très grand tableau, un très grand format.
Alors, c'est vrai que pour, on va dire, les gens, j'aime pas trop dire les gens, mais souvent, il y a une lecture qui se fait, on est habitué un peu, quand on lit, de gauche à droite, par exemple, ou de droite à gauche, selon les pays.
Oui.
Est-ce que votre tableau, je ne vais pas dire fresque, hein, mais non, qui est alors, un tableau mural, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il y a une façon de l'appréhender, c'est-à-dire on peut s'intéresser en partant du centre ou d'une aile, comment on peut faire ?
Belle question. Mais c'est-à-dire que le début, là, à gauche, commence par un autoportrait. Hein, et voilà. Moi, je pense que... Allez, de toute façon, comme il est installé là, il se fait que l'entrée est là. Je crois que le cheminement, c'est d'aller là vers le fond, et après, on circule comme on veut.
Voilà, donc de gauche à droite, finalement.
De gauche à droite, aller-retour.
Aller-retour.
C'est bien.
Voilà. Donc, vous parliez tout à l'heure de peinture. Vous êtes un artiste peintre. Alors, évidemment, on pourrait dire, qu'est-ce qui différencie le peintre de l'artiste peintre ? Ça, c'est encore autre chose. Vous utilisez beaucoup la matière peinture. Et justement, oui. Par rapport à la photo, cette matière, elle a une épaisseur, une densité,
oui.
Une texture
oui.
Qu'on ne peut pas rendre en photo. D'où votre art ?
Oui, tout à fait. Mais... il ne faut pas oublier aussi, parce que c'est au sein de votre question, le dessin aussi. Le dessin, j'ai tenu à associer un certain nombre de dessins. Oui, donc le dessin, c'est pour moi, c'est capital. C'est capital. Surtout, si vous abordez la figure humaine, parce que l'anatomie... est indispensable.
Donc souvent, les peintres commençaient par un dessin avant de se projeter en peinture.
Oui, absolument.
Ça le reste ?
C'est une belle question aussi qui entre vraiment dans le sujet. C'est-à-dire que le raz-de-marée qui a sévi dans les années à partir du tout début des années 50, c'est l'abstraction, c'est l'art abstrait. Alors l'art abstrait, a voulu que représentation visible du monde ne pouvait plus exister. Donc l'abstraction, elle a refusé le dessin, forcément. Mais les temps ont changé et on peut constater que de plus en plus, et surtout ces 10 dernières années, la figuration n'a jamais cessé, hein, et quelles que soient les fortes poussées de l'art abstrait. Mais les peintres figuratifs n'ont jamais renoncé. Ils ont traversé des moments difficiles, parce que tout ce qui n'était pas abstrait, c'était du vieux jeu, hein, selon les tenants de l'art abstrait. Donc le dessin et la peinture, ce sont mes deux outils, enfin mes deux langages.
À certains endroits, on voit un clin d'œil ou des clins d'œil à des artistes qui sont célèbres, qui n'ont pas toujours été bien vus. Certains ont été même maudits.
C'est-à-dire hier, dans cette séance d'information, on me disait, vous peignez beaucoup de têtes de personnages connus. Mais je dis non. Je peux vous en montrer plusieurs dizaines. Je vais vous demander qui c'est, vous ne saurez pas me le dire. Bon, bien sûr, si on... en face d'un visage qui exprime le visage de Marilyn Monroe, bien sûr, c'est un visage connu. Hein, mais si c'est... le cinéaste et écrivain Pasolini, peu de gens ont son visage en tête. Václav Havel, qui a été président de la Tchéquie, je crois, on ne sait pas, voilà. Bertolt Brecht, qui connaît le visage de Bertolt Brecht? Donc, parce que certains disaient, vous peignez des stars. Mais non, je peins des philosophes, des comédiens, des écrivains, des compositeurs, qui me touchent profondément. C'est ça l'important.
Est-ce qu'il y a des gens, au-delà des, j'allais dire, vedettes dont vous parlez, est-ce qu'il y a des gens, j'allais dire...
Anonymes.
Oui. Est-ce qu'ils vous servent de modèle et est-ce que vous les faites poser, par exemple?
Ben, c'est-à-dire que dans mon métier, dans mon travail, pas tous les jours, mais régulièrement, je reçois des commandes de portraits d'amis ou de personnes qui aiment ce que je fais. Ils disent, tiens, monsieur, est-ce que vous accepteriez de peindre mon épouse ou moi-même? Je le fais, tout à fait. Mais ici, justement, il y a deux tableaux que nous venons d'accrocher à l'instant. Les deux tableaux qui sont juste à droite sur le même mur que l'œuvre de l'atelier, il y a deux têtes de mineurs. J'y fais... Bon, j'habite... Je vis à Charleroi, qui est une terre de charbonnage, où il y a eu une énorme émigration italienne, entre autres, après la guerre. Et j'ai tenu à ce qu'il y ait, j'en ai fait toute une série, mais j'en ai montré deux, parce que, justement, ce sont des héros anonymes.
Alors, ils sont en ce moment mis à l'honneur dans notre région, notamment dans le bassin minier. Oui. Voilà. Et puis, il y a une exposition qui leur est consacrée au Centre historique minier de Le Ward aussi, je pense.
Oui.
Hein,
oui.
Et donc, où on rend forcément hommage au travail des mineurs, à
oui.
ce qu'ils ont apporté,
oui.
et à comment maintenant on essaie de sortir d'une industrie en essayant d'éviter les travers de ce monde qu'on a vécu, c'est-à-dire les difficultés humaines, notamment la vie pénible de ces mineurs, leur décès pour certains dans des accidents.
Oui, oui, tout à fait, mais vous savez, tout à fait à propos, à Charleroi, qui était entouré de charbonnage, il y a un ancien charbonnage qu'on appelle le bois du casier, C-A-Z-I-E-R, où il y a eu cette catastrophe en 1956, où il y a eu 262 victimes, et avec le concours de l'Europe, il y a maintenant pas mal d'années, ils en ont fait un espèce de musée mémorial. C'est le bois du casier. Et ils m'ont demandé, dans l'enceinte, qui est assez grand, de, sur un grand mur, de peindre sur le mur, à la couleur acrylique, c'est ce qui se rapproche plus de la fresque que nous disions, de faire un travail qui doit faire à peu près 8 mètres de long sur 2, sur la catastrophe du bois du casier. Et j'ai tenu à y associer 5 de mes anciens étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Et c'est visible. Et oui, Charleroi est une terre qui, en tout cas depuis cette catastrophe, régulièrement rend hommage à tous ces mineurs. Ouais.
Alors justement, les mineurs, souvent, on les peint, on les dépeint en noir et blanc, pour des raisons évidentes.
Oui.
Vous avez une partie de votre œuvre qui est en noir et blanc, enfin, j'allais dire, où on ressent plutôt l'absence. Alors, le noir est-il une couleur? On peut y revenir. Et oui. Puis une partie avec des couleurs beaucoup plus flashy,
oui. Oui.
Donc de vrais contrastes en même temps.
Oui. Mais c'est-à-dire que j'ai, dans mes deux passions, il y a à la fois le noir et le blanc et la couleur. Ça, ce sont mes deux pôles. Ce sont mes deux pôles, absolument.
Donc Léo Ferré, dont vous parliez un peu tout à l'heure, est très présent
c'est
dans cet
sonnerie,
univers
c'est
aussi.
La sonnerie de mon téléphone, oui, tout à fait, tout à fait.
Il a un sens ici.
Oui, puisqu'il a, il y a quasiment une salle ici, la prochaine, ici, la suivante, qui lui est consacrée en grande partie. Quoi. Voilà. Oui.
Mais écoutez, merci d'avoir précisé ce tableau radiophonique.
Merci beaucoup. Je suis vraiment content de vos questions qui entrent dans le sujet et qui... Vos questions me conviennent.
Un grand merci, Charles Zimkowicz. Et... bien sûr, à nos auditeurs de découvrir de visu, on va dire, votre travail et ce que vous leur apportez.
Merci beaucoup.